Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
What we see and what we seem are but a dream within a dream. You must learn to love someone else apart from me, Sarah. I won't be here much longer.
Au sommaire aujourd'hui, une émission sur l'étrange, la folie au cinéma avec bien sûr des films étrangers fous, hein, à savoir quelques sorties Carlotta Film, Out of Order de Karl Schenkel, est-ce que rester enfermé dans un ascenseur rend fou par exemple, voilà, Heroic Trio plus Executioners de Johnny To et Ching Siu Tung, voilà deux films complètement fous là pour le coup. Le marin qui abandonna la mer de Lewis John Carlino, où là on est vraiment aussi dans une certaine forme de folie. Il y aura aussi toujours chez Carlotta la comédie folle Trois Amigos de John Landis. Alors, je vous avoue, on y est un peu allé au forceps hein, pour la faire rentrer dans la thématique cette comédie, mais on avait vraiment envie d'en parler. Et puis il y aura quelques sorties ESC, La tête contre les murs de Georges Franju, Picnic à Anguin Rock de Peter Weir, et nous conclurons avec un autre film avec des femmes enfermées, hein, Reform School Girls de Tom de Simone, et ça c'est paru chez Extra. Lucide Film. Alors l'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach, Lucie Mautier et Juliette Béguet. N'oublions pas aussi Patrice Véry pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, revue disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, également disponible sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et évidemment chez tous les bons libraires. Pour causer étrangeté et folie, je suis aujourd'hui entouré de deux fous, mais des fous de cinéma. On va commencer par Damien Demédy, la bête noire de Compiègne, archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent, et contrairement à ce que dit le docteur, elles ne sont pas que dans ma tête.
Autre patient présent dans cette pièce, un homme persuadé d'être un loup-garou picard. En fait, ça s'appelle juste Thomas Roland, alors peut-être parce qu'il a plus beaucoup de cheveux, il s'imagine être un loup-garou, eu égard à la pilosité, je ne sais pas. En tout cas, chaque nuit de pleine lune, il rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédac-chef. Salut Thomas.
Salut Gégé, salut Damien et bonjour les messieurs en blanc.
Qui dit folie, bon, on va parler un peu de films un peu fous, avec des personnages un peu fous, mais aussi des films totalement bis, décomplexés, barrés, comme seul le cinéma hongkongais savait en produire. Je veux bien sûr parler du diptyque Heroic Trio et Executioners de Johnny To et Ching Siu Tung. Alors, officiellement, hein, ces deux films qui datent de la même année, 92, hein, ils sont tournés en même temps. Officiellement, le premier est réalisé par Johnny To, le deuxième par Johnny To et Ching Siu Tung. Mais enfin, les fins connaisseurs de cinéma hongkongais savent très bien que Ching Siu Tung a également co-réalisé le premier, puisque c'est lui qui réalise toutes les scènes de combat, c'est lui qui les chorégraphie, et elles occupent quand même une grande partie de l'intrigue. Et ces deux films un peu dingues, là, ils sortent en 4K, en ultra HD, chez Carlotta, dans des copies superbes. Des films qui ont un côté totalement artisanaux, c'est ça que j'adore, quoi, voilà, et qui sont en même temps totalement barrés, plein d'idées de mise en scène. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire de film ? Alors, il y a un petit malentendu sur ces deux films. On a toujours voulu nous faire croire que ce film qui raconte le combat donc, d'un trio de super-héroïnes, hein, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, après on ira plus en détail dans les histoires des films, mais on a souvent voulu nous faire croire que c'était du grand cinéma féministe parce que comment il y avait des femmes qui se bastonnaient. Non, en fait, en vérité, je pense que Johnny To aurait bien voulu faire un trio masculin avec les vedettes masculines, d'après les différentes sources qui circulent, coûtait trop cher. Et que donc, en fait, il a préféré réunir trois femmes. Alors, ces trois femmes, quelles sont-elles ? Eh bien, la récente oscarisée, Michelle Yeoh, elle n'est pas encore James Bond Girl à l'époque, elle est choisie plus particulièrement pour ses talents de combattante, hein, parce qu'elle a vraiment, même si elle est doublée, hein, en partie pour les combats, mais elle a aussi vraiment des aptitudes au combat qui font que, pour les réalisateurs de films d'action, elle est très appréciée. Anita Moy, qui s'écrit MUI, alors elle, c'est une super comédienne. Alors, elles sont toutes très belles, hein, évidemment. Donc, Anita Moy est très belle. C'est une super comédienne du cinéma hongkongais. On a pu la voir, par exemple, dans le Syndicat du Crime 3. C'était une véritable star en devenir. Elle faisait de la chanson aussi. Et puis, malheureusement, elle est morte très jeune. C'est pour ça qu'on ne la voit plus aujourd'hui, à 40 ans, d'un cancer du col de l'utérus, en 2003. Et c'est bien triste. Et là, elle est quand même excellente parce que c'est quand même plus elle le personnage principal du premier opus. Et puis, la dernière, et pas des moindres, puisque c'est Maggie Cheung. Alors Maggie Cheung, qui connaîtra une grande carrière internationale. Hein. Maggie Cheung, on peut voir dans Polystory 2, par exemple. C'est la petite copine de Jackie Chan. Très belle Maggie Cheung, alors qui a énervé beaucoup de monde à l'époque de la sortie du film, puisque sa tenue de combat, là, c'est quand même jartel et blouson cuir. Donc, pour tous les fétichistes, ces deux films sont hautement recommandés. Et en fait, dans le film, ce qui est assez rigolo, c'est pour dire qu'elle a de l'humour, Maggie Cheung. Maggie Cheung, c'est une actrice qui était réputée à Hong Kong pour tourner. C'est ce qu'on apprend, entre autres, hein, dans les bonus où s'exprime Fabien Moreau, co-auteur de La Grande Bagarre, et Marvin Montes, rédacteur cinéma et auteur de Hong Kong Action, Le Sabre, Le Poing et Le Fusil. On apprend que c'était une actrice réputée pour être intéressée par l'argent. Donc dans le trio, ils en ont fait une mercenaire qui est intéressée uniquement par l'argent. Voilà, ils ont essayé en fait de faire coïncider les personnages avec ce qu'elles étaient réellement dans la vie, ces actrices. Alors l'histoire du premier, c'est quoi ? The Heroic Trio. Alors, il y a un eunuque maléfique, et oui, c'est comme ça, les eunuques sont maléfiques, qui manipule une femme qui a le pouvoir de se rendre invisible, Michelle Yeoh. Alors, le pouvoir de se rendre invisible via une tenue dont la conception met à mal la santé de son concepteur, et ce concepteur n'est autre que son compagnon scientifique pour laquelle elle meurt d'amour. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait pour, satisfaire cet eunuque maléfique qui la manipule ? En fait, il kidnappe des enfants et il les dresse, comme ses propres chiens, à devenir des combattants dans des conditions effroyables pour qu'après, ils exécutent des missions pour lui. La mission de Michelle Yeoh, c'est d'enlever des nouveau-nés. Hein. D'ailleurs, le film est bien barré parce que j'ai rarement vu autant de gamins se faire tuer que dans ce film-là. Voilà. Et il y a à côté de tout ça la justicière volante. Alors elle, c'est Anita Moy. Alors c'est un peu le syndrome Clark Kent, hein, parce qu'elle s'habille en super-héroïne, mais elle met juste un petit loup sur ses yeux. Et malgré tout, son mari, qui est chef dans la police, ne la reconnaît pas à chaque fois qu'elle intervient. Alors c'est une super-héroïne qui est très, très, très appréciée de la population. Et puis, la fin du trio, le reste du trio est composé d'une chasseuse de primes experte en explosifs, donc Maggie Chung. Et donc, évidemment, il va y avoir affrontement et après, ces trois héroïnes vont finir par former un trio, par se réunir pour aller affronter le nuque. Le nuque est son homme de main, quand même, qui est interprété par le génial Anthony Wong, qu'on adore tous quand on aime le cinéma hongkongais. Et Anthony Wong, qui est une sorte de combattant totalement indestructible. À un moment, il se prend un train dans la gueule. Ça lui fait à peine bouger un sourcil. Voilà, donc... Et mon cher Damien, je crois que pour toi, ça a été une découverte, cette combinaison de films fantastiques, de films de SF, de polar... Deux films de kung-fu. Enfin, on est dans un gros délire, là.
Dans la sélection de films qu'on a pour l'émission, Heroic Trio est mon préféré. C'est celui qui m'a le plus marqué. Il donne le ton très vite. Alors, ça s'appelle Heroic Trio, mais techniquement, parmi les personnages, il n'y a qu'un seul personnage qui est un véritable héros. Les autres, c'est des anti-héros. Bah, soit c'est des kidnappeurs, soit c'est des mercenaires. C'est un film qui a beaucoup de comédie en lui, mais qui arrive à bien faire sortir ses éléments romantiques. Et il a c'est un Super Sentai, en fait. Ça a tous les codes du Super Sentai. Et ça, c'est très intéressant de voir ça à l'heure des films où on a des super-héros, de voir quelque chose d'aussi frais. Alors, il est pas parfait, c'est-à-dire que très vite, on voit les câbles, on voit quelques trucages, mais ce ne sont pas des éléments qui posent problème, en fait. Je trouve que ça participe indirectement à l'harmonie du film. Ça fonctionne dans la direction qu'il a. Le film brille par beaucoup d'éléments. Sa musique est inégale, mais j'aime beaucoup sa musique de tension. Et tout ce qui est trucage et musique fonctionne grâce à un montage que je trouve extrêmement cool, remarquablement efficace, notamment sur tout ce qui est de mettre en scène la femme invisible qu'on ne voit pas au début mais dont on aperçoit uniquement quelques mouvements. Et les scènes de combat aussi sont très bien réalisées, comme tu l'as évoqué Jérôme. C'est des affrontements qui font très... Il y a un petit côté Tigre et Dragon, mais on retrouve vraiment encore l'aspect Super Sentai à la Power Ranger dans un univers un peu fantastique que j'apprécie énormément. Donc c'est un film qui date des années 90 et que je trouve bizarrement extrêmement frais.
Ah, c'est des films un peu dingues. C'est des films qui ont été mis quand même en chantier dans le but de surfer sur le succès des Batman de Tim Burton. Ce qui est assez étonnant. D'ailleurs, on va en parler pour le deuxième, parce que du coup, en voulant surfer sur le succès du Batman de Tim Burton, ils vont plutôt préfigurer le Dark Knight de Christopher Nolan, surtout le deuxième, d'un point de vue esthétique en tout cas. Donc ça, c'est assez rigolo, mais sinon...
Il y a une petite particularité aussi que c'est trois héroïnes, mais en soi, quand j'y réfléchis, en tout cas en Occident, j'ai jamais vu un film, entre guillemets, de super-héros avec que des héroïnes. En fait, le seul qui me vient à l'esprit, c'est un film qui sort plus ou moins l'année prochaine, et c'est un film, c'est un Marvel.
On y reviendra sur le Dark Knight de Nolan. On va rester sur celui-là, qui est le meilleur des deux films, qui est le plus réussi des deux, où on a quand même... pendant une heure et demie de l'action, plein de plans iconiques quand les trois héroïnes décident de se réunir et qu'elles sont ensemble et qu'elles avancent pour aller attaquer le nuque. Les plans sont assez déments, hyper iconiques, comme si c'était un film hyper premier degré et tout. J'adore ça. Il y a évidemment, il y a des gadgets, il y a beaucoup de suspense, il y a des câbles qui sont apparents et on s'en fout. Le méchant Anthony Wong, il a une arme géniale qui rappelle aussi le Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, avec, vous savez, ces chapeaux-là de mandarin qui l'envoie comme ça, et en fait c'est une guillotine volante et il coupe la tête des gens comme ça. Alors il lance son truc et hop, il y a des têtes qui volent de partout, c'est hyper gore, au milieu d'une sorte de divertissement familial. Des bébés se font tuer, des têtes se font couper. À un moment, les trois héroïnes décide d'utiliser une moto, de rouler à la verticale sur le mur et de projeter la moto sur le mec. Il se prend la moto, il se prend un train, il est toujours pas mort. Enfin, c'est complètement délirant. La suite, qui est sortie l'année d'après en 93, mais qui a été tournée la même année en 92, toujours la même équipe, toujours les trois mêmes actrices. Alors qu'est-ce que ça raconte? C'est pas du tout une suite qui s'inscrit dans la continuité du film. Hein. Là, on est au lendemain, c'est un film post-nuke en fait. On est au lendemain d'une guerre nucléaire. L'eau non polluée est devenue une denrée rare. Et Monsieur Kim, qui est l'inventeur d'un système de purification d'eau, a l'intention de renverser le pouvoir en place pour régner en maître sur le pays. Forcément. Le trio héroïque va alors se reformer, bien décidé à lutter contre ce tyran. Voilà, alors on a un début de film, on dirait du Tsukamoto, quoi. Avec un côté presque cyberpunk, comme ça, complètement barré, très très noir. Et puis, après, malgré toute sa folie, ce qui est rigolo, c'est que ce film, donc, qui est vraiment une anticipation du Dark Knight de Nolan au féminin, demeure quand même moins percutant que le premier film de la du diptyque. Hein, par contre, plus gonflé politiquement. C'est-à-dire que le film met clairement en cause l'armée qui tente un coup d'État, mais fait clairement des références à la place Tiananmen. Donc c'est plutôt étonnant, on va dire, de voir ça dans un film hongkongais. Bon, je pense que ce serait plus vraiment possible aujourd'hui. Hein. Voilà, ça serait un peu compliqué. Et bon, le film est un peu frustrant parce que par exemple, Anita Moy, elle met son masque que pour la dernière demi-heure du film parce qu'elle est devenue une mère au foyer. Alors, est-ce qu'elle va reprendre le chemin du combat? Est-ce qu'elle ne va pas le reprendre? Mais n'empêche que le final reste assez gore et assez sadique, le dernier combat, et assez chouette quand même. Voilà. Donc, on vous conseille ce diptyque. Ça s'appelle Heroic Trio et Executioners, c'est deux films réunis dans un même coffret. Alors, cette superbe édition limitée en steelbook, soit c'est du Blu-ray, soit c'est de l'UHD. Enfin, vous choisissez la version que vous voulez, mais vous vous ferez un gros kiff. Et c'est sorti chez Carlotta Film. Écoutez Culture Prohibée. Toujours chez Carlotta Film, on va maintenant parler de ce que moi, Damien, je considère comme le meilleur film de cette sélection pour cette émission. Voilà. C'est Le Marin qui abandonna la mer de Lewis John Carlino avec Chris Christopherson et Sarah Miles, et un film inspiré d'un petit auteur que je crois, Thomas, tu aimes bien.
Inspiré du Marin rejeté par la mer de Yukio Mishima. Yukio Mishima qui a eu le droit à un film de Paul Schrader, un biopic de Paul Schrader assez particulier, qui était découpé en chapitres. Et chaque chapitre était introduit par une adaptation d'un extrait d'un roman de Mishima. À chaque fois. C'est un film assez particulier. Hein. Donc, Yukio Mishima, c'est quand même un auteur qui ne l'est pas moins particulier. Ses romans sont souvent teintés de cruauté. Alors, c'était un bonhomme assez bizarre, bisexuel, travesti, mais en même temps, qui cultivait une idée du surhomme, le surhomme, le samouraï. C'était un homme d'extrême droite, hein, Yukio Mishima. Et d'ailleurs, il a voulu faire un coup d'État. Et son coup d'État a foiré et il s'est fait seppuku. Voilà. Donc, Le Marin rejeté par la mer, c'est l'histoire d'une veuve qui est, dans le film, hein, enfin, le film est assez fidèle au roman. Hein. C'est l'histoire d'une veuve qui vit donc avec son fils unique. En Écosse, hein, une petite ville au bord de la mer, et qui un jour va voir arriver un beau marin incarné par Chris Christopherson. Seulement, le fils a des divertissements assez étranges. Il traîne avec une bande de gamins, quatre autres enfants, et ils ont une sorte de club où ils cultivent justement cette idée du surhomme. Cette idée du surhomme qui parcourt toute l'œuvre de quasiment de Mishima. Hein. Enfin, j'ai pas tout lu, mais de ce que j'ai lu, ça, c'est quand même bien là. Hein. Et donc, ils ont cette idée de pureté. Et ça va assez loin dans la cruauté. À un moment, ils torturent un chat. Enfin, dans le roman, ça va plus loin que dans le film, parce que dans le film, ils l'endorment, le chat, avant de le disséquer. Dans le roman, ils le fracassent. Hein. Bon, c'est quand même plus dur. Et donc, il y a cette idée de pureté. Et puis, le rapport que va entretenir le jeune garçon avec le marin, qui va donc se marier avec sa mère. Va devenir des plus étranges. Et il se dit que cet homme, finalement, n'incarne pas l'idée de pureté, de masculinité, de virilité qu'il devrait être. Et donc, il va prendre une décision avec ses amis du club qui va mener à un drame quand même assez cruel. C'est la première réalisation de Lewis John Carlino, hein, le scénariste du Flingueur, de Michael Winner. Il a réalisé 3 films seulement, mais il en a scénarisé pas mal d'autres. Et moi, je trouve que c'est un excellent film. C'est une excellente adaptation, déjà, qui respecte effectivement l'idée du roman, qui est fidèle sur le plan de la structure et sur le plan du fond du roman. Mais aussi, moi, je trouve que le film, il est très beau. Il est techniquement très beau. Alors, le début, moi, j'aime beaucoup le générique de début. Il n'y a pas de musique, c'est des plans sur la petite ville au bord de la mer. On entend des cornes de brume. Il y a un peu de brume, on entend les oiseaux. Je trouve ça vachement chouette. D'ailleurs, ça me rappelle beaucoup The Fog de John Carpenter au niveau du découpage. Pas de la lumière, parce que là, on est au crépuscule. Hein. C'est vachement chouette. Et il y a ce côté... il y a une forme d'ironie dans la mise en scène. C'est que le roman n'est pas du tout romantique. Hein. On est du point de vue de Noboru. Il s'appelle Noboru dans le roman, le petit garçon, enfin, l'adolescent. Et c'est dur, quoi. Ça rigole pas. Bon, le film non plus ne rigole pas. Mais il y a des passages vraiment romantiques, avec de la musique, une photographie un peu ouatée. C'est d'ailleurs Douglas Slocombe, le directeur de la photo, qui est aussi, je le rappelle, le directeur photo des 3 premiers Indiana Jones, qui a fait l'actualité au cours de l'année. Et il y a ce côté romantique qui est complètement en décalage avec le fond du film, la cruauté des personnages. Et je trouve que ça renforce, ça accentue la dureté du fond du film.
C'est vrai que ce groupe de préadolescents est assez particulier. Le numéro 1, c'est le chef, c'est littéralement son nom. Il est extrêmement sadique, il est extrêmement dur dans le rapport qu'il a... lui avec les adultes, mais lui envers les autres, avec cette hiérarchie extrêmement dure et ce côté de déshumanisation par les chiffres. La scène du chat est tournée, à mon avis, de cette façon pour servir de flash-forward plus tard dans le film par rapport à une autre scène à laquelle elle fait écho. Et je pense que l'autre point qui est évoqué, c'est la sexualité. Et c'est vrai que du coup, on a un préadolescent qui découvre la sexualité par lui-même aussi avec son groupe, donc c'est quelque chose qu'il ne connaît pas et qui est montré. Et j'imagine que le fait que la violence soit déjà présente, alors ça c'est ma théorie, le fait que la violence soit déjà présente dans le rapport de tous les jours, ça fait qu'on n'a pas besoin de la montrer. Par cette économie d'image, il crée un malaise et une violence qu'il arrive à décupler, ce qui est alors tout bonnement formidable. Mais c'est formidable parce que dans le film ça fonctionne à la perfection. C'est un truc assez particulier parce que quand je regardais le film, je suis totalement d'accord avec toi Thomas, il y avait vraiment cette opposition finalement entre le monde des adultes qui tombe dans un certain romantisme et finalement cette histoire d'amour qui est en train de naître, et face à elle finalement ces enfants qui grandissent, qui découvrent les questions de sexualité, aussi cette appartenance en groupe, et toute leur atmosphère qui est étrange et qui au final au fur et à mesure du film commence à manger sur cette romance. Il y a tout ce qui est la désillusion aussi, celui du héros qui finalement est juste un homme normal en fait, qui, qui est capable d'empathie, qui est capable de comprendre les autres, qui n'est pas ce grand héros qui affronte les vagues et transperce les océans déchaînés. Mais le truc qui fait que le film est particulier, je pense que c'est le fait aussi que ce soit une adaptation. Je pense que ça joue énormément. Parce que quand je regardais le film, je trouvais qu'il y avait ce double discours à l'intérieur qui donnait toute cette étrangeté. Et à la fin, quand j'ai vu que de base, c'était une œuvre japonaise qui avait été adaptée, et ben en fait, j'ai retrouvé beaucoup de thématiques qu'on retrouve dans le cinéma japonais, notamment cet affrontement entre jeunes et vieux, de manière plus explicite. Moi, ça m'a rappelé un peu... Bataille Royale de Kinji Fukasaku, ces thématiques en fait qui sont extrêmement présentes au Japon. Et l'une des réussites et ce qui rend l'œuvre géniale, c'est d'avoir réussi à adapter finalement des thématiques très japonaises au monde occidental.
Écoutez Culture Prohibée spéciale folie au cinéma. Nous allons rester chez Carlotta Film. Nous allons rester avec l'ami Thomas Roland qui a une vraie passion. Une vraie passion, figurez-vous, pour les films d'ascenseur. Alors, il y a Dick Mas, qu'il aime beaucoup. Mais il y a aussi Carl Schenkel, qui a fait le fameux Out of Order, un film de 1984 où dans un grand immeuble, un vendredi soir, à la fermeture des bureaux, Pete, un voyou, Gossman, un vieux comptable, Jorg, un cadre publicitaire, et Marion, sa collègue et ancienne maîtresse, et aussi parce qu'il fallait quand même une femme dans le casting, se retrouvent enfermés dans une cabine d'ascenseur en panne. Et là, mon cher Thomas, c'est la folie ou c'est pas la folie ?
On se dit qu'un film qui va tenir pendant une heure et demie dans un ascenseur, ou dans, on va quand même se faire chier un petit peu, hein. Ben non, Carl Schenkel, le réalisateur de La Septième Prophétie, elle est surtout connue pour ça, s'en sort plutôt bien en ménageant petit à petit une tension entre ses personnages. Alors évidemment, s'il y a une femme, c'est pas que pour mettre une femme au casting et faire plaisir aux féministes aujourd'hui, hein. C'est aussi parce que pour ajouter de la tension, parce que évidemment, il y en a une qui est la femme va être convoitée par un autre homme que son amant officiel, etc. À partir de ce petit habitacle, Carl Schenkel développe un discours social, hein, en confrontant par exemple cet homme d'affaires avec ce petit voyou qui n'est qu'un petit voyou qui finit par convoiter sa maîtresse, et puis ce comptable qui se fait le plus discret possible, on saura pourquoi là, plutôt vers la fin. Et bon, il arrive à s'en sortir parce que bien sûr il y a des rebondissements, ce n'est pas qu'un affrontement psychologique, il y a aussi de l'action évidemment, on s'en doute, avec ces personnages qui essaient de se sortir de cet ascenseur bloqué entre deux étages. Et donc finalement c'est un bon suspense, il réussit à tenir le spectateur en haleine pendant 7h30 en faisant finalement à partir de ces quatre personnages un discours sur la société allemande de l'époque.
Donc on rappelle que ce film de Carl Schenkel, que personnellement moi je trouve plus réussi que l'ascenseur de Dick Mas qui avait eu le Grand Prix à Voriaz, un film où je trouve la réalisation encore plus travaillée, encore plus impressionnante, où la caméra joue vachement avec les angles, il y a beaucoup de choses très intéressantes pour instaurer une tension, et il y a quand même, le film est quand même... quasiment tout du long sous tension, c'est un film vraiment assez prenant, alors qu'en fait comme tu l'as dit il y avait tous pour s'ennuyer au départ. Donc il y a Ghost George aussi qui est très bon, non pas Boy George, hein, Ghost George qui est un acteur qui à l'époque connaissait une belle carrière. Et le vrai tour de force de ce film en fait, c'est qu'effectivement on ne voit pas leur ennemi passer, et que puis comme tu l'as dit il y a le fameux dernier twist, évidemment, sans lequel ça ne serait pas un bon film à suspense. Et donc ça s'appelle Out of Order, en dérangement si vous préférez. C'est réalisé par Carl Schenkel. Et donc ce film de Carl Schenkel est disponible chez Carlotta Film. Je vais quitter Carlotta Film pour aller chez ESC le temps de deux films. Alors, on va commencer par un film qui a mis la... comment dire, la folie au centre de son intrigue, puisque ce film, scénarisé, produit, interprété par Jean-Pierre Mocky, est un film de Georges Franju, un très beau film en noir et blanc, dont le noir et blanc est sublimé par Eugène Schuftan. Alors Eugène Schuftan, évidemment, l'immense chef opérateur du Métropolis de Fritz Lang, mais pas que, mais enfin, immense chef opérateur dans l'histoire du cinéma. Ce qui est assez drôle quand même, c'est que pour le film, Eugène Schuftan est assisté de Claude Zidi. Eh oui, c'est assez marrant de voir ça. Un film qui met donc en avant Jean-Pierre Mocky, mais qui met aussi pour la première fois en avant, dans un film de Franju, Pierre Brasseur, qu'il retrouvera pour Les yeux sans visage. On croise aussi le monocle, Paul Meurice. On croise aussi la belle Anouk Aimée, toute jeune, et un Charles Aznavour, également tout jeune. Ce film met vraiment la folie au centre de son intrigue, puisque c'est l'histoire de Jean-Pierre Mocky, qui est le fils d'un ténor du barreau, un mec pas très clean, hein, dont on découvre comment il a été innocenté pour des faits assez peu ragoûtant, j'en dirais pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et son fils est un peu un blouson noir, hein, voilà, et décide pour soigner son fils blouson noir, donc forcément blouson noir, il vole dans ses tiroirs un peu de sous, donc forcément pour le père, c'est un malade mental. Donc il l'envoie se faire soigner dans un asile. Et alors là, il se retrouve enfermé dans un asile, loin de sa bien-aimée, Anouk Aimée. Et il fait la rencontre de Charles Aznavour, qui est un autre patient. Et va alors se dérouler sous nos yeux un film qui est un véritable réquisitoire contre les mauvais traitements infligés aux patients dans les asiles psychiatriques. Un film qui est précurseur, hein, dans ce domaine. Un film que Jean-Luc Godard aimait beaucoup, hein. Jean-Luc Godard écrit dans les cahiers du cinéma « La tête contre les murs est un film de fous. Sur les fous, c'est donc un film d'une beauté folle. » À l'époque, Franju, lui, il sort de tous ses courts-métrages, en particulier du Sang des bêtes. On ne retrouve pas vraiment, d'ailleurs, je trouve le côté un peu naturaliste, ni le côté de l'étrange étrangeté surréaliste qu'il pouvait y avoir, même s'il y a quelques scènes, je pense à une scène de pendaison et tout, on est un peu dedans quand même. Mais pourquoi ? Ben pourquoi ? Parce que, alors c'est dans les bonus de l'édition ESL, hein, mais parce que Mocky se revendique un peu d'avoir tourné le film. On ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. De toute façon, les deux hommes ne sont plus de ce monde, que ce soit Georges Franju ou Jean-Pierre Mocky. Ce serait pour ça que Mocky est crédité comme producteur, parce que c'est lui qui devait faire le film. Et puis en fin de compte, il s'est trouvé remplacé par Franju. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça qui sont abordées dans les bonus. Le film, pour moi, est un film d'une beauté plastique sidérante. La copie proposée est superbe par ESC. Elle est vraiment très, très belle. Je pense même qu'on n'a jamais vu le film dans cette qualité-là. Ce noir et blanc sublime. Je pense que le film est courageux. Parce qu'il est quand même sans pitié pour l'état de la psychiatrie en France à l'époque.
C'est un film sur la folie, oui et non. C'est aussi un film qui considère que ceux qui ne rentrent pas dans les cases, c'est-à-dire ici c'est le fils d'un bourgeois qui se rebelle contre l'autorité parentale, contre ce que ce père incarne, c'est-à-dire une certaine forme de société riche, un peu plus ou moins renfermée sur elle-même, etc. Donc ce jeune homme, c'est un rebelle, quoi. C'est un jeune homme en colère, et donc on n'y rentre pas dans les cases, donc on l'enferme. On l'enferme en psychiatrie. Et on découvre aussi à un moment, dans une scène de cantine, qu'on enferme un peu tout le monde et n'importe qui, ceux qui ne correspondent pas à l'idée qu'on peut se faire d'un honnête citoyen et qui ne répond pas aux normes sociales, en fait. Donc, oui, c'est un film sur la folie, mais d'une certaine façon, sur qu'est-ce que l'on considère, qui on considère être fou.
C'est vrai que quand on regarde le film, on trouve que ni les personnages d'Aznavour, ni le personnage de Mocky sont des gens qui sont fous, en fait. Voilà. Et c'est le coup de force du film, c'est-à-dire, à la limite, c'est les plus lucides sur le monde qui les entoure, et c'est des personnages qui n'ont pas d'apparat, contrairement au père, qui a fait une sacrée saloperie, mais qui a, lui, le vernis de la bourgeoisie et de son statut de grand avocat. Voilà. Donc, effectivement, c'est au centre du film. Voilà, donc un film, vous l'aurez compris, un film qu'il faut voir absolument, La tête contre les murs de Georges Franju, et c'est disponible chez ESC Éditions. écoutez Culture Prouille. Moi, je vais rester chez ESC pour un très grand film, un très grand classique, voilà, que beaucoup d'amateurs de fantastique connaissent, qui est proposé dans son director's cut avec plein de super bonus, dont un bonus tourné à l'époque, un reportage pour la télé australienne, un reportage de 75 qui est vraiment génial, qui est un reportage fait l'année de la sortie du film pour soutenir le film, un reportage avec Joanne Lindsay, l'autrice du roman original, avec Peter Weir et aussi avec quelques acteurs du film. Je veux bien sûr parler, vous l'avez deviné, de Picnic à Hanging Rock, le film de Peter Weir, le film de 75, le film que personne n'avait vu venir, de ce téléaste australien très doué. Le cinéma australien à l'époque est moribond. C'est le film qui va relancer la Ozploitation, bien que ce ne soit pas du tout un film d'exploitation. C'est un pur film d'auteur, un très grand film fantastique, c'est même... Ça va au-delà de tout ça. Et c'est l'homme qui avait fait Les voitures qui ont mangé Paris, qui est un film très intéressant, mais rien ne laissait présager que l'homme qui a fait Le plombier, Les voitures qui ont mangé Paris, allait pondre ce film incroyable, Picnic à Hanging Rock, qui est en fait, c'est le cas de le dire, la première pierre d'une filmographie et de thématiques qu'il va développer dans toute sa filmographie, y compris dans ses films les plus hollywoodiens, les plus bankables, tels que Witness avec Harrison Ford. Voilà, enfin, c'est un cinéaste absolument passionnant que Peter Weir, qui n'a quasiment jamais fauté de toute sa carrière, qui est un cinéaste vraiment assez exceptionnel. À l'époque, personne ne le connaît. Quand le film sort, c'est une véritable claque. Qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est simple. C'est la Saint-Valentin. On est en 1900 et on est dans une école très rigide, une école anglaise très, très rigide, une école pour jeunes femmes, pour filles. Ces jeunes femmes, ces jeunes filles, donc, sont chaperonnées par des professeurs, dont une professeure plus distinguée, plus jolie, plus sympathique, qui parle français, et puis une vieille rombière, une vieille mégère, avec laquelle la directrice de l'école, très très stricte et très rigide, semble entretenir une relation un peu ambiguë. Voilà. Donc, et comme tous les ans, à la Saint-Valentin, ces adolescentes qui ne sont donc pas du tout au contact du masculin, hein, qui ne connaissent comme membres du sexe masculin que le cocher qui tous les ans les emmène en pique-nique à Hanging Rock, le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin. Et il se trouve que ce 14 février 1900, toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles ne vont pas revenir. Certaines vont disparaître. On ne retrouvera jamais les corps de ces adolescentes. Elles ne reviennent pas. Et seule une d'entre elles réapparaîtra sur les quatre qui ont disparu. Et il y a également la professeure un peu guindée là, qui va disparaître également. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ont-elles disparu en Hanging Rock ? Ce qui est assez fascinant, c'est d'ailleurs le film ne donne pas de réponse, c'est assez génial. Donc, ces jeunes filles plutôt vertueuses, plutôt corsetées, vont se faire avaler quelque part par ce site aborigène. Est-ce la revanche des aborigènes ? Allez savoir, le film de Peter Weir est tellement riche qu'il peut être vu de tant de manières différentes que c'est un film absolument donc passionnant. Là, il est proposé dans son director's cut, qui est un poil plus court que la version que nous, on avait découvert jeune, en VHS, qui là fait 1h47 et qui serait, selon Peter Weir, plus efficace. Bon, je vous avoue que personnellement, n'ayant pas revu le film depuis longtemps, le voir en director's cut, je ne me suis pas dit... ou c'est moins bien, ou c'est différent. J'ai pas spécialement vu la différence. Le film reste assez extraordinaire. Il faut savoir en plus que l'autrice du roman, tout comme Peter Weir, on le voit hein, dans le super bonus qui est proposé par ESC, c'est ce documentaire de 75, joue un peu sur le côté énigmatique. Est-ce vraiment une histoire réelle ? Parce qu'on explique que c'est basé sur une histoire vraie. Mais en fait, il semblerait plutôt qu'il y ait eu effectivement des disparitions d'adolescentes à Hanging Rock, mais pas du tout à cette époque-là, pas du tout dans ces conditions-là, et qu'à partir de là, l'autrice a brodé quelque chose de totalement différent. Ce film, en fait, est un film assez particulier qui est porté par, parmi ces jeunes filles, parmi celles qui disparaissent, il y en a une qui est une jeune femme qui est vraiment, qui est très belle, qui est blonde. À un moment, il y a une de ses professeurs qui la compare à un ange de Botticelli. Et quand elle s'enfonce dans la forêt, qu'elle dit au revoir à sa professeure avant d'aller donc vers cet amas de rochers qui va littéralement les faire disparaître, les manger, quoi, voilà. Cette fille pour laquelle une de ses camarades de classe nourrit clairement un désir lesbien, un désir sexuel, et qu'elle porte comme si c'était une... quasiment, elle la déifie, quoi, voilà. Le film, en fait, met en avant beaucoup de choses. Alors, on peut voir la sexualité comme ça, qui est rejetée, réprimée par cette école, qui va se traduire d'ailleurs par une scène incroyable, lorsque la seule survivante va revenir voir ses copines de classe. Il va y avoir une scène assez, assez étrange. Mais en tout cas, c'est un film où tout le désir est inhibé. Ces filles, on leur fait porter des corsets, on leur fait porter des tenues qui sont quasiment des armures, dont elles vont se délester. Plus elles vont aller vers le sommet en fait de ce rocher, elles vont se délester de leurs habits petit à petit. Pourquoi ? Parce que ces pucelles découvrent la sexualité. C'est le passage de l'adolescente à l'âge adulte. Et le film est tellement riche, tellement passionnant. Par exemple, il y a des pendules. Il y a des pendules qui reviennent régulièrement, il est sans arrêt fait notion à l'heure qu'il est. Il y a aussi, comme je vous disais, toute cette sexualité qui est inhibée. Est-ce que ces filles inhibées au contact de cette roche volcanique vont développer tout à coup une véritable attirance pour la sexualité, pour l'âge adulte ? Est-ce que aussi le signe qui apparaît, parce qu'il y a aussi des garçons, et c'est marrant, les garçons et les filles ne vivent jamais dans le même monde. Il y a des adolescents, à un moment, ou des jeunes hommes, qui voient ces jeunes filles et qui les regardent de loin, sans jamais les approcher. Ah bien qu'ils, en plus, ils tombent tous amoureux fous de cette belle blonde, de cette Miranda. Et en fin de compte, il y a même un des garçons qui va risquer sa vie pour essayer d'aller les retrouver. Mais ça, c'était une autre partie du film. Et puis... il y a l'apparition d'un cygne. Alors on connaît tous l'histoire de Léda et le cygne. Léda et le cygne, c'est Zeus qui se transforme en cygne pour pouvoir posséder le corps de Léda, pour la violer. Et là, en fait, ce cygne revient très régulièrement dans le film. Est-ce qu'on doit y voir, chez ces garçons, la tentation du viol, ou simplement la tentation ? Voilà. On ne sait pas, on n'en saura pas plus. Le film ouvre de nombreuses portes et il fait confiance à l'intelligence du spectateur pour y répondre. Pour moi, ce film est littéralement un film, une représentation de l'indicible au cinéma. C'est un film absolument unique pour moi. Et c'est un film qui, moi, m'a durablement marqué et qui, je trouve, se bonifie à chaque vision. Écoutez Culture Prohibée spéciale folie au cinéma. On va rester avec des jeunes femmes enfermées. Enfermées dans une prison. Et là, attention, il y a de la folie. Il y en a même une qui ne veut pas se séparer, d'une petite peluche parce qu'elle lui évoque son frère mort. Bonjour la psychose, hein, qu'elle n'a pas réussi à sauver parce que quand elle était petite, elle était enfermée dans une valise par sa belle-mère, avec son frère. Et donc, elle a un traumatisme parce que son frère est mort dans la valise à côté d'elle. Et elle a gardé le petit doudou de son frère. C'est une des personnages principales, mais ce n'est pas le personnage principal, du film dont je vais vous parler. Donc, des films enfermés, qui dit film enfermé, qui dit film d'exploitation. Woman in prison, évidemment, hein, un whip. Cette jeune fille... Elle va se retrouver enfermée en tôle, donc du coup, parce qu'elle est virée de son foyer. Elle va se retrouver enfermée en tôle avec l'héroïne Linda Carroll. Linda Carroll qui, elle, a juste été un petit copain. Elle avait un petit copain qui était un braqueur. Elle est tombée lors du braquage et elle se retrouve donc en maison de correction pour adolescentes, la Reform School Girls. Et dans cette même prison, il y a Wendy O. Williams, la chanteuse des Plasmatics, hein, qui n'est plus de ce monde malheureusement parce qu'elle s'est suicidée, mais qui est une icône punk. Hein, voilà. D'ailleurs, il y a un des bonus qui est consacré par Xavier Bonnet au côté punk, à cette icône du punk. Le tout, eh bien, elles vont avoir à souffrir non seulement des autres copines du vestiaire dans la prison, mais aussi de Pat Ast, femme très forte, sorte de version féminine de Divine, qui va jouer, elle aussi, chez John Waters, évidemment. Et puis, en directrice de prison sadique, habillée comme une femme échappée des Waffen-SS, il y a Sybil Danning, évidemment. Tout ce petit monde, bon, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, mais je vais quand même vous lire le résumé, parce que Reform School Girls, c'est sorti chez Extra Lucid Film, et j'ai envie... de donner la palme d'or du meilleur résumé à Extra Lucid Film. Écoutez bien, ça c'est le résumé qu'il y a sur le Blu-ray. Elles sont sexy, elles sont belles et elles sont dangereuses. Suffisamment dangereuses pour être enfermées dans la maison de détention pour jeunes délinquantes de Pridemoor. Là où il n'y a ni fenêtre, ni possibilité d'évasion, ni espoir. Lorsque Jenny débarque à Pridemoor, elle ne pense qu'à s'échapper. Mais elle va devoir affronter ses terribles geôlières, Sutter et Enna, ainsi que sa co-détenue tyrannique, l'implacable et sexy Charlie. C'est pas tout un programme, ça ? Fantastique. Alors, le film, c'est vraiment la queue de comète de ce qu'on appelait le WIP. C'est un film de 1986. C'est un film tourné dans des conditions assez difficiles. Il faut savoir que Tom De Simone, alors c'est très bien expliqué dans les bonus par Clara Sebastiao, qui explique très bien ce qu'est le genre Woman in Prison, et puis qui explique aussi très bien le parcours de Tom De Simone qu'on retrouve aussi en interview et qui nous révèle quelques trucs sympathiques. Il nous révèle entre autres pourquoi Sybil Danning disparaît du film à un moment. Voilà, je vous en dis pas plus, vous regarderez les bonus. Et Clara Sebastiao, elle nous raconte un peu la carrière de Tom De Simone, qu'on connaît un peu parce que nous on est fans des livres et du travail de Pascal Français par exemple, parce que là le film dont je vous parle, Reform School Girls, c'est quasiment un film de prison pour femmes, camp. Voilà, là on est en plein dans le camp. Et Tom De Simone, c'est quelqu'un qui se destinait à une carrière dans l'animation, qui a débuté dans les films pour enfants et qui avait un beau destin qui se traçait devant lui. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va faire des films porno gays parce qu'il a envie. Voilà, et ben il a bien raison après tout, hein, s'il a envie. Et puis derrière, qu'est-ce qu'il va faire? Pas mal de série B du coup, parce qu'il faut bouffer. Et puis une semaine avant, il y avait plus de réalisateurs sur Reform School Girls. Alors on l'appelle, au secours, viens Tom De Simone, fais-nous ce film. Et il fait ce film, ma foi. Vu les conditions de tournage, vu tout ce qui est décrit dans les bonus, il s'en sort super bien parce que ça a plutôt de la gueule. Bon, la copie est belle, hein. Plastiquement c'est plutôt joli. Et surtout, lui, il fait le choix. Alors Clara Sebastiao le souligne dans les bonus, elle a bien raison, parce qu'il y a beaucoup de monde qui critique ce film en disant que ce film est loupé, ou c'est un nanar, évidemment Nanarland hein, qui dit ça, hein. Sauf qu'en fait les mecs ont rien compris au film, c'est une parodie de Whip ce film, c'est un film volontairement comique, avec des personnages outranciers, on sent que, donc c'est un film camp, on sent que l'ami Tom De Simone s'éclate, et qu'il transforme ce film, qui à la base devait être une série B fauchée et pas extraordinaire, en film extraordinaire. Donc voilà ce que ça donne. Alors bien sûr, on est en plein dans le bis. Bien sûr, on est loin du film extraordinaire
comme Cage Hit, 5 femmes à abattre, dont on avait parlé la saison précédente de Jonathan Demme, qui est le top du whip. Là, on est dans autre chose, dans un produit de série B, dans du cinéma bis, dans le cinéma fauché, et on s'éclate. Alors évidemment, c'est une manière un peu légère de traiter la folie au cinéma, c'est pas très sérieux. Hein. D'ailleurs, on va rester pas très sérieux pour parler d'un film qui traite pas vraiment de la folie au cinéma, mais qui est une comédie bien folle, pour terminer cette émission. Puis on avait envie d'en parler, même si c'est pas vraiment dans le sujet. C'est Trois Amigos de John Landis, mon cher Thomas, qui est, pour moi, une comédie grandiose de l'ami John Landis.
Et John Landis qui s'essaye au pastiche du western cette fois, hein, tout en parlant d'un peu de cinéma muet, hein, tout en faisant un hommage aux Trois Stooges. Les Trois Amigos, là, ce sont trois amis qui sont trois acteurs qui jouent dans des films muets, qui jouent dans des westerns où ils sont qui sauvent des pauvres malheureux, deux méchants qui veulent les opprimer, leur prendre leur richesse, enfin leur prendre leur richesse parce qu'ils sont pas riches. Leur prendre leur récolte, etc. Et donc, ils jouent dans des films muets qui sont un peu distribués un peu partout aux États-Unis, voire même au Mexique. Hein. Et au Mexique, dans une petite partie du Mexique, il y a un village qui est justement opprimé, un peu comme dans Les Sept Mercenaires, hein, qui est opprimé par un méchant dont on connaît le visage, hein, vu qu'il jouait déjà un méchant dans La Horde Sauvage de Sam Peckinpah. Donc ce méchant opprime ce village, leur pique leur récolte, etc. Il leur laisse rien, donc il est vraiment très méchant. Et une jeune femme avec son petit frère se rend en ville à la recherche d'hommes qui pourraient éventuellement les défendre contre ce méchant monsieur. Et ils vont déjà dans un bar plutôt mal famé. Bon, ils font un peu chou blanc. Et tout d'un coup, dans une église, il tombe sur la projection d'un film avec ses trois amigos. Et là, elle ne fait pas du tout la différence entre la réalité et la fiction. Elle se dit, il faut engager ces trois hommes-là. Et donc, elle décide d'envoyer un télégramme au studio crédité au générique du film pour engager ses trois amigos. Mais seulement, elle n'a pas assez de sous pour tout le texte qu'elle a dicté au télégraphiste. Et donc, il raille des mots, ce qui fait que les trois amigos pensent qu'ils vont venir jouer dans un film ou tout du moins faire une performance dans un village. Bon, le malentendu va rester un petit moment, mais le film, en tout cas, est très drôle. Un pastiche de western absolument drôle. Et c'est fou dans le sens où John Landis, il n'hésite pas à mélanger les genres. Hein. Un petit peu comédie musicale, et puis à un moment, on tombe carrément dans une espèce de fantastique complètement délirant avec un buisson qui chante, et puis un homme invisible qui passait par là. On se demande ce qu'il fout là, d'ailleurs, mais bon, avec un homme invisible qui passait par là. Et le film est très bien et très rythmé. Très drôle et c'est un pastiche de western mais qui respecte le genre, hein, parce que John Landis c'est quand même un cinéphile.
Bon, c'est hilarant, le casting, c'est un casting de dingue. Bon, il y a Ed Guapo, tu l'as dit, mais il y a les trois super humoristes qui étaient des véritables stars à l'époque. Chevy Chase, l'immense Chevy Chase, le fameux Fletch dans toute une série de films qui a cartonné dans les années 80. Steve Martin. Doit-on encore présenter Steve Martin, hein, qui a tourné et qui tourne toujours des comédies hilarantes. Et Martin Short, qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui est très drôle. Bon, même lors du final, il nous réserve une dernière surprise, Martin Short. Puis comme tu l'as dit, on est chez John Landis, il y a des trucs totalement délirants, les personnages allemands qui débarquent dans le troquet.
Le méchant de Cobra.
Mais oui, tout à fait. Mais c'est non, mais voilà, c'est John Landis au meilleur dans sa période la plus créative. Hein, c'était extraordinaire le cinéma de John Landis qui ne rit jamais aux dépens de ses personnages. En plus, c'est ça qui est génial parce que c'est un peu quand même des gros losers ces mecs. Mais en même temps, on les adore, on les aime, on a envie qu'ils réussissent leur mission. Et puis moi, j'adore. Il y a des décors peints dans la plus pure tradition des films en Technicolor des années 60. Il y a vraiment des grands moments. Enfin, c'est hyper rythmé. Il se passe toujours quelque chose. Puis bon, je vous avoue que je trouve Steve Martin assez irrésistible parce qu'il est, il est un peu un but de lui-même, un peu falot. Ça lui va tellement bien. Il est tellement drôle quand il fait ça. Voilà. Donc moi, je vous recommande. Alors, dans le dossier de presse, de Carlotta Film, puisque Trois Amigos de John Landis s'est sorti chez Carlotta Film. Il cite un critique de l'Express qui dit « John Landis pratique l'humour avec bonheur. Trois Amigos, c'est Alexandre Dumas version tequila. » Eh ben, je trouve que c'est super bien résumé. Voilà, pas mieux. Bravo aux critiques de l'Express, je peux pas dire mieux. Voilà. Et donc, si ce n'est que je vous conseille vivement ce film, là, qui est restauré dans un Master HD, qui est absolument superbe. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur, Jérôme Poitier, dit la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.